Paul Féval, Les Habits Noirs, Livre 3, Partie 3, La rue de Jérusalem. Première partie, Clampin dit pistolet. Envoi à Madame R. de C. C'est vous, madame, qui m'avez fait connaître cette vivante mine d'anecdotes où j'ai puisé les deux premières séries des habits noirs. C'est vous encore qui m'avez raconté l'étonnement des maçons démolisseurs quand ils découvrirent, dans l'épaisseur d'une paroi de la tour Tardieu, au coin de l'ancienne rue de Jérusalem, un trou de forme sinistre, le moule d'un homme. J'ai essayé de ne rien inventer dans cette histoire dont votre vieil ami a rassemblé les éléments. Il eût été facile de lui donner l'unité dramatique, mais j'aurais renoncé à l'écrire s'il m'avait fallu supprimer l'épisode du roi habit noir et de sa maintenon à barbe. Veuillez accepter ce livre où vous trouverez tant d'emprunts faits à nos causeries et croyez à mes respectueux sentiments d'affection. Paul Féval. Chapitre 1er. Meurtre d'un chat. Un coin du vieux Paris. C'était un palier d'aspect misérable, mais assez spacieux, éclairé d'en haut par un tout petit carreau dormant que la poussière rendait presque opaque. Trois portes délabrées donnaient sur ce palier où l'on arrivait par un escalier tournant, vissé à pic, et dont l'arbre médian suait l'humidité. Les trois portes étaient disposées semi-circulairement. À droite et à gauche de l'escalier étroit, il y avait en outre deux recoins contenant quelques débris de bois de démolition, des mottes et des fagots. Le jour allait baissant. On entendait aux étages inférieurs, qui étaient au nombre de trois, y compris le rez-de-chaussée, des bruits confus où dominaient les cliquetis de verre et d'assiettes. Une violente odeur de cabaret montait l'escalier en spirale et n'avait point d'issue. Sur le carré de ce dernier étage, tout était relativement silencieux. Par la porte de droite, sous laquelle il y avait une large fente, un murmure de discrète conversation sortait avec une bonne odeur de soupe fraîche. Derrière la porte du milieu, c'était le silence absolu. Ce qu'on entendait derrière la porte de gauche n'aurait point pu être défini, et même l'oreille la plus sûre aurait hésité sur la question de savoir si le martèlement périodique et sourd qui faisait vibrer la cage de l'escalier venait de là ou de plus loin. Il semblait venir de là, mais s'était voilé comme affaibli par une large distance. Néanmoins, à chaque coup, la cage de l'escalier subissait une profonde secousse. Dans le recoin, à main gauche de l'escalier, on ne voyait rien, sinon l'amas confus des pauvres combustibles jetés là au hasard. Dans le recoin de gauche, un rayon pâle, pénétrant au travers des fagots, éclairait un superbe chat de gouttière, pelotonné commodément, occupé à se lisser le poil. La première porte, en montant à gauche, portait le numéro 7, et c'était sa seule enseigne. La porte du milieu, outre son numéro 8, avait une carte collée à lettre de 4 pains à cacheter et sur laquelle était écrit un nom à la plume, Paul Labre. La troisième porte, celle d'où semblait venir le bruit périodique et inexplicable, était marquée du numéro 9. En bas, un coucou sonna 5 heures. Il se fit un imperceptible mouvement dans le recoin de gauche. À droite, le chat dressa l'oreille dans son nid derrière les fagots. La conversation devint plus distincte à l'intérieur de la chambre numéro 7 et le bruit des voix qui causaient se rapprocha. La porte s'ouvrit, laissant échapper cette franche odeur de soupe dont nous avons déjà parlé. La chambre était grande et beaucoup plus vivement éclairée que le carré. On y voyait une table ronde avec sa nappe mise et au fond une cheminée entourée d'ustensiles de cuisine pendus à la muraille. Un homme et une femme, qui continuaient une conversation commencée, se montrèrent sur le seuil. La femme, qui n'était plus jeune, portait un costume d'ouvrière fort propre, où se retrouvait je ne sais quel reflet d'habitude et de goût campagnard. Elle avait dû être très belle, et l'expression de son visage inspirait la confiance. Il y avait en elle de la gravité et de la bonté. Son compagnon était un homme de 35 à 40 ans, petit mais bien pris dans sa courte taille. Sa figure énergique avait quelque chose de débonnaire et de méfiant à la fois, comme il peut arriver pour les gens dont la fonction contrarie le caractère. Sa joue rasée était bleue de barbe, ses yeux très noirs et abrités sous des sourcils touffus regardaient droit mais regardaient trop. Il avait le sourire honnête, ses vêtements étaient ceux d'un petit bourgeois. Comme ça, dit la femme, après avoir interrogé le palier du regard et en parlant très bas, le général est à Paris. Ne me cachez rien, monsieur Badois, ajouta-t-elle en voyant que son compagnon hésitait. Vous savez bien que je ne suis pas bavarde. Oh, je sais que vous êtes la meilleure des plus bonnes, maman Soulas, répondit monsieur Badois, mais ça brûle, voyez-vous, et il y a là-dessous une manigance à faire dresser les cheveux. Je sens au toulonnais l'amitié à une liole à ronde, moi. Monsieur Lecoq, les habits noirs, murmura Thérèse Soulas avec plus de curiosité encore que de crainte. Elle ajouta doucement, mou, mou, mou. Ah, ce Minet devient presque aussi mauvais sujet que monsieur Mégaigne. Viens, trésor. Badois lui tendit la main. Ah, tout à l'heure, dit-il, je serai là pour le potage, 6 heures tapant. Ah, c'est drôle tout de même que les dames ont généralement des idées pour les mauvais sujets. Il y avait là-dedans un reproche. Thérèse Soulas se mit à rire bonnement et retint la main qu'on lui donnait. Savez-vous pour qui j'ai une idée, murmura-t-elle. C'est pour le pauvre grand garçon qui est si pâle. J'ai eu une fille qui aurait presque cet âge-là. Elle regardait d'un air triste la porte du milieu marquée du numéro 8. Ah, répliqua Badois avec bonne humeur. Je ne suis pas jaloux de monsieur Paul. S'il avait du goût pour l'éclat, celui-là, il irait loin. Son affaire avec le général l'avait planté du premier coup. Mais ça se ronge de honte et de préjugés. À vous revoir, madame Soulas. Je suis sur une piste et j'ai un diable dans le corps. Il descendit l'escalier lentement. Madame Soulas resta un instant pensive sur le pas de sa porte. « Le général, se dit-elle, ma fille est heureuse dans sa maison. Je sais qu'il l'aime autant que son autre fille. C'est singulier. Moi, je ne connais pas son autre enfant et je l'aime presque autant que ma fille. » Elle fit sa voix toute douce pour appeler encore « Mou, 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 libertin, mou, mou !» Mais l'obstiné matou se gobergeait sous les fagots et faisait la sourde oreille. Madame Soulas rentra et referma sa porte. Pendant tout le temps qu'elle avait été sur le palier, le bruit régulier et sourd avait cessé dans la chambre numéro 9. Aussitôt que Madame Soulas eut disparu, le bruit recommença. Elle était maintenant assise auprès de sa cheminée, regardant fixement une grande marmite de cuivre où bouillait le pot-au-feu. « Ah, moi, pensait-elle, il ne sait plus que j'existe, qu'importe, je ne lui ai jamais rien demandé pour moi. » Elle avait pris sous le revers de son fichu une petite boîte qu'elle l'ouvrit. La boîte contenait le portrait d'un fort beau cavalier portant le costume de lancier et les insignes de chef d'escadron. Sous le portrait, on pouvait lire ces mots « à Thérèse ». Madame Soulas le regarda. Il eût été malaisé de traduire l'émotion de son sourire. Ce n'était en aucune façon de l'amour. « Ils disent que les révolutions ont changé le monde, murmura-t-elle. Un homme beau, riche, puissant, passe dans un pauvre pays. Il trouve une femme belle, il lui prend sa conscience et son repos. Il s'en va heureux, elle reste misérable. » Quand mettront-ils autre chose à la place de cela? Ah, j'ai eu bien de la tendresse et bien de la colère, mais je n'ai plus rien, sinon la pensée de ma fille. Isole est heureuse chez lui. Tout ce que je pourrais faire pour lui, je le ferais de bon cœur. La marmite bouillait copieusement, jetant à profusion ces effluves qui offensent les estomacs rassasiés et ravissent jusqu'à l'extase l'humble appétit du poète. Madame Soulas se leva pour mettre en ordre le couvert, une demi-douzaine d'assiettes dont chacune avait sa bouteille coiffée d'une serviette en ruban. Nous sommes ici dans une table d'hôte. On frappa. Deux habitués entrèrent, M. Mégaigne, le mauvais sujet, et M. Chopin, un homme rangé. Il faut bien arriver à vous le dire, depuis le commencement de ce récit, vous n'avez encore vu que des agents de police. Madame Soulas tenait gargote pour messieurs les inspecteurs. Badois était un inspecteur, M. Mégaigne, ce brillant viveur, était un inspecteur, c'était un inspecteur aussi que ce Chopin, tournure de rentier, cœur de comptable. Paul Labre lui-même, l'inconnu, l'unique brin d'herbe par où nous puissions nous échapper à la poésie, hélas. Ce palier mystérieux appartenait à une maison historique dont nous ferons bientôt la monographie. Nous sommes rue de Jérusalem, en plein cœur de la sûreté publique. Les bruits et les parfums de cabaret qui montaient par l'escalier à vis appartenaient à l'établissement du père Boivin, qui avait deux maisons et la tour au bord de l'eau, dite aussi la tour Tardieu ou la tour du crime. La chambre numéro 9, d'où sortait ce bruit énigmatique qui se prolongeait patiemment et semblait venir de si loin, occupait précisément le dernier étage de la tour. Monsieur Mégaigne avait un habit bleu à boutons noirs. C'était un don Juan avec un arrière-goût d'employé des pompes funèbres. Monsieur Chopin portait une redingote demi-solde et peu de linge. Il était petit, maigre, jaune-gris, ridé à sec et brillait surtout par son flegme et sa voix de basse taille. « Belle dame, » dit Mégaigne en saluant de son chapeau luisant, agité gracieusement à deux pieds au-dessus de sa tête, « j'ignore pourquoi vous daignez vous intéresser au général comte de Champmas, mais j'ai l'avantage de vous annoncer qu'on l'a extrait du Mont-Saint-Michel pour l'amener à Paris, où il doit témoigner dans une affaire de complot politique. » « Où il témoigne, » rectifia Chopin, « l'affaire se juge en ce moment même. » « Le général a été bon pour ma famille, » dit simplement Madame Soulas. Elle ajouta, « Qu'est-ce que c'est donc que cette fameuse histoire qui vous met tous en rumeur ?»« Bon, » s'écria Mégaigne, « le badois a parlé, quel bavard, mais il n'y a pas d'affaire, ce n'est qu'un mot qui n'a ni queue ni tête et entendu par un gendarme encore. Les gendarmes entendent toujours de travers, c'est le règlement. » Chopin se mit à rire. Entre gendarmes et inspecteurs, la sainte amitié ne règne pas. Pendant le voyage du Mont-Saint-Michel à Paris, reprit Mégaigne, à je ne sais quel relais, un homme a pu s'approcher du général, un homme en blouse, et lui a dit quelque chose dont le brave gendarme n'a attrapé qu'un petit morceau, « Gautron à la craie jaune ». Devine, devinaille, interrompit Chopin. Voilà tous les finaux de la sûreté en quête. Gautron à la craie jaune. Quel rébus. Gautron à la craie jaune, répéta M. Mégaigne en haussant les épaules. Est-ce une enseigne? Ouf, une manière d'accommoder Gautron, risqua M. Chopin, comme qui dirait Gautron à la purée. Et là-dessus, poursuivit M. Mégaigne, voilà mon badois parti. Il veut toujours faire mieux que les autres. Sa mouche, le petit pistolet qui tue les chats et va en ville, a rôdé toute la matinée autour du palais. Cherche. Moi, je dis, Gautron à la craie jaune ou Gautron à la sauce blanche, on en donne au gouvernement pour son argent, et c'est bête de gâter le métier. Pas de bile, voilà mon opinion. Quand 6 heures sonnèrent, 5 convives s'assirent autour de la table. 2 places restèrent vides, celle de M. Badois et celle du voisin du numéro 8, Paul Labre, qu'on avait déjà appelé 2 fois. En ce moment, et quoique le jour eût encore baissé sur le palier, on aurait pu voir quelque chose d'informe s'agiter dans le recoin, à droite de l'escalier. Dans le trou de gauche, le chat cessa de lustrer son museau et prit une attitude inquiète. « Quoi ?» dit une voix de ténor aiguë, très enrouée. « Je ne veux pas en faire, moi, des matous, pas vrai? Et M. Badois ne me donnera rien pour avoir entendu cogner si près ou plus loin, car du diable si je sais où on pioche. Il n'est pas monté un seul minet, et j'ai besoin de mes 20 sous. Mèche, mon Andalouse, m'attend à Bobino avec toutes ces demoiselles. Faut que l'amour de maman Thérèse y passe. » Je me rangerai quelques jours, c'est dit, mais jusqu'à ce que je m'aie rangé en grand, c'est encore l'âge du plaisir et de la folie. une forme humaine, grêle et dégingandée, sortit lentement du noir. Aux lueurs qui tombaient du jour de souffrance, on aurait pu distinguer des os pointus sous un bourgeron bleu déteint et une tête étroite coiffée d'une énorme toison couleur de filasse. Cela fit un pas et s'étira. C'était Clampin, dit Pistolet, jeune homme libre, mais non pas sans profession, puisqu'il travaillait pour Monsieur Badois, pour les gargotiers de la cité et pour bien d'autres. Le chat se renfonça sous les fagots. Il sentait un ennemi. Pistolet, qui semblait marcher pieds nus, tant son pas était muet, tourna la cage de l'escalier. Il avait à la main un tout petit crochet de chiffonnier, véritable joujou d'enfant, qu'il avait dû fabriquer lui-même avec un brin de fagot et un clou. « Mou, mou, mou » appela-t-il, en contrefaisant bien doucement la voix de Madame Soulas. Les fagots bruirent par l'effort que faisait le matou pour pénétrer plus avant sous le tas, à reculons. « Innocent, lui dit Pistolet, ne fais donc pas de manière, tu ne t'en apercevras seulement pas, et tu peux pas dire que je ne t'ai pas attendu. Maman Soulas a bon cœur, s'il était venu le moindre lapin de gouttière, mais non quoi, il y a des jours comme ça, quand on arrive tard à Bobino, tu sais, c'est la grêle, et bouge pas. » Les yeux du matou luisaient comme deux charbons et indiquaient exactement la place de la tête. Il y a de grands chasseurs, et presque tous les grands chasseurs sont un peu chirurgiens. Clampin, dit Pistolet, visa avec soin et piqua. Les deux charbons s'éteignirent. « Là, fit-il, c'était donc la mer à boire !» Le dernier mot n'était pas encore prononcé qu'un grincement se fit entendre derrière la porte numéro 9. Depuis quelques secondes, le bruit du martèlement avait cessé. Pistolet se laissa choir sur les fagots, sans respect pour le cadavre tiède de sa victime, et demeura immobile. La porte numéro 9 s'ouvrit, et Pistolet vit quelque chose de singulier. Il faisait jour encore à l'intérieur de la chambre. La porte qui s'ouvrait, en dehors, montra son revers. Elle était doublée d'un matelas. « Pour qu'on n'entende pas les coups de pioche, pensa Pistolet. Pas bête, hein. » Un homme de taille herculéenne, que la lumière prenait à rebours, se montra sur le seuil. Il écouta et regarda. Puis il sortit et promena un morceau de craie sur les planches de la porte. « Il met son nom, » pensa Pistolet. « On va voir. » Ce fut tout. L'homme rentra et poussa le verrou de la porte en dedans, mais pour rentrer, il avait mis en lumière son profil perdu, et Pistolet murmura d'un ton de surprise profonde, où il y avait quelque frayeur. « Monsieur Coyatier, le marchef !»« Mais voyons l'étiquette qu'il a collée sur sa boutique, » ajouta-t-il. Une allumette chimique grinça et fit feu. Pistolet l'approcha, toute flambante, de la porte du numéro 9, et put lire ce nom, Gautron. Ce nom était tracé avec de la craie jaune. Clampin, dit Pistolet, souffla sur son allumette chimique et se mit à réfléchir. « Ça doit être crânement bon pour Monsieur Badois, cette histoire-là, » pensa-t-il. Le bruit sourd avait repris. Pistolet savait maintenant pourquoi les chocs répétés de la pioche ou du marteau semblaient si lointains. Il y avait le matelas. Et Pistolet pensa encore, « Il ne faut pas plaisanter avec le marchef. Il a une manière pour tuer le monde, comme moi pour les chats, sans les faire miauler. Mais qu'est-ce qu'il peut fabriquer à coups de pique? La maison tremble. C'est drôle qu'on ne l'entend pas ici, dessous, dans les cabinets de société. Après ça, on entend peut-être. Quand il monte une machine, cela, c'est bien ajusté. On aura mis des amis dans les cabinets. » Il avait attaché son petit crochet de chiffonnier à un lambeau de bretelles qui retenait son pantalon sous sa blouse. C'était un engin de chasse qui ne coûtait point de port d'armes. Pistolet, cependant, restait songeur. Quant à me passer de Bobino ce soir et de Mèche, mon albanaise, Bernique, dit-il, en prenant sous les fagots le cadavre de l'infortuné matou. J'ai mes 20 sous assurés sur la planche. Il tâta le corps du délit en connaisseur et ajouta, 25 sous. Ah, c'est un monument que ce bijou-là est tendre. Au lapin blanc, ils le feront sauter pour les Milords. Et ce sera toujours bien temps de dire la chose à M. Badois demain matin, la chose de M. Coyatier et du nom qu'il a marqué sur la porte matelassée. C'est un nom, voyons, la mémoire, Goudron, Gautron, du diable, si je suis capable de garder ça jusqu'à demain, me faudrait un portefeuille avec crayon. Je m'en collerais un s'il ne coûtait pas 40 centimes, sans boire ni manger, ni rien payer à mèche. Ces vêtements du gamin de Paris, qui semblaient si élémentaires, ont toujours un nombre suffisant de poches. Dans ces poches, il y a toutes sortes de choses dont la vente ne produirait pas de quoi prendre l'omnibus. Pistolet fouilla ses poches pour trouver un lambeau de papier. Par hasard, le papier manquait. Pistolet chercha sur le carré, pas le moindre chiffon. Ah, j'avais pourtant mis la main sur une miette de charbon qui aurait fait un joli crayon, grommela-t-il. Ah, tiens, je suis bête. La carte de Monsieur Paul s'ennuie là depuis le temps. Je vais l'amener au spectacle. De son pas furtif, qui ne produisait aucun bruit, il s'approcha de la porte du milieu et enleva la carte de Paul Labre, au dos de laquelle il écrivit à tâtons ce nom de Gautron. Tranquille désormais au sujet des tours que pourrait lui jouer sa mémoire, il dissimula le mât tout mort sous sa blouse et descendit l'escalier. L'heure du plaisir avait sonné. Pistolet, libéré de son bureau, allait dans la rue, tête haute et nez au vent. Quand il eut vendu le minet au cours du jour à l'industriel honorable qui devait en faire une gibelotte, Pistolet acheta pour 2 sous de pain et 2 sous de couanne, cuite à la poêle, qu'il mangea en gagnant le théâtre du Luxembourg. Sans appartenir à la jeunesse dorée, il avait quelque réputation au contrôle comme effronté claqueur. « Ma femme est-elle au paradis » demanda-t-il. « Mademoiselle Mèche s'entend. » Sa femme était au paradis. Il y monta. Pendant toute la soirée, il étonna la haute galerie par son faste, payant tour à tour de la bière à 2 sous, de l'orgeat à midonné, des pommes, de la galette et des noisettes. Il avait pourtant dans sa poche de quoi sauver la vie d'un homme qui allait mourir, ce chevalier déguenillé de Mademoiselle Mèche, mais il n'était pas encore rangé et ne songeait qu'au plaisir. Après son départ, le palier où le meurtre avait eu lieu était resté désert. Chez Madame Soulas, on dînait bien paisiblement. Tout se taisait dans la mansarde de Monsieur Paul Labre. Le bruit produit par le travail mystérieux qui se faisait dans la chambre numéro 9 s'entendait seul et plus distinctement. Dans la nuit presque complète du carré, un rayon vif se dessina tout à coup en éventail, éclairant à la fois les 2 recoins et la cage de l'escalier tournant. C'était la porte du milieu qui s'ouvrait. Paul Labre se montra debout sur le seuil. Il écouta. Le martèlement sourd prit fin aussitôt. Il paraît que, malgré le matelas disposé pour amortir le son, celui ou ceux qui travaillaient dans la chambre numéro 9 gardaient un moyen de savoir ce qui se passait au dehors. Un instant, la haute stature et la tête harmonieuse de Paul se découpèrent en silhouette sur la baie cintrée d'une fenêtre qui s'ouvrait au fond de sa chambre, juste en face de l'entrée. On ne pouvait distinguer ses traits parce que la lumière le frappait en plein dos et mettait son visage à contre-jour. Mais l'élégance flexible de sa taille et la pureté de ses profils laissaient deviner un homme très jeune et très beau. Manifestement, c'était le bruit du marteau qui l'avait appelé, car le silence parut l'étonner au plus haut point. Manifestement aussi, le bruit l'avait arraché à quelque occupation exigeant du calme. Un poète a cette pose inquiète quand un son important vient tout à coup troubler son recueillement. Mais Paul Labre n'était pas un poète. Il jeta d'abord un regard du côté de la chambre tranquille où les hôtes de Madame Soulas prenaient leur ordinaire. Ensuite, son œil interrogea la porte numéro 9 qui restait dans l'ombre et où le nom tracé à la craie n'apparaissait point. Il murmura en se touchant le front. On n'est plus soi-même à 16 heures. Je me croyais fort, mais j'ai la fièvre, c'est certain, puisque j'entends des bruits qui n'existent pas. Il prêta l'oreille encore attentivement et ajouta. Rien. J'aurais juré qu'il y avait là des maçons en train d'abattre un pan de muraille. Ma tête déménage. Il rentra. La chambre où nous pénétrons avec lui était petite et de forme irrégulière. Dans un plan d'architecte, elle aurait eu l'apparence d'une demi-lune légèrement écrasée. La fenêtre à lucarne était au centre de l'arc de cercle. Il n'y avait point de cheminée. Les deux angles étaient fermés en pans coupés par deux étroites armoires d'attache dont la section aurait fourni une sorte de triangle. La chambre était meublée d'un lit de sangle, de trois chaises, d'une commode et d'un secrétaire. Les chaises étaient bonnes et semblaient venir d'un jardin public ou d'une église. La commode tombait en ruine, le secrétaire en cerisier, noirci par l'âge et les malheurs, avait néanmoins, parmi toute cette pauvreté, une apparence luxueuse. La tablette éreintée et soutenue par surcroît à l'aide d'une canne plantée debout, comme les charretiers font pour empêcher leur tombereau de tomber, supportait quelques papiers, un petit verre à liqueur plein d'encre et une plume. Un chapeau noir était sur l'une des chaises. Sur le pied du lit, il y avait un pantalon noir assez neuf, un gilet noir et une redingote noire. La fenêtre basse, cintrée et coiffée par l'avance du toit qui s'abaissait comme la visière d'une casquette, donnait sur un grand jardin, au-delà duquel diverses constructions monumentales se groupaient. Paul Labre, au lieu de se rasseoir devant la tablette du secrétaire, qu'il venait évidemment de quitter, car l'encre de la page commençait et brillait encore, marcha d'un pas incertain vers la fenêtre et regarda au dehors. Outre ces corps de bâtiments qui bordaient le jardin sur la droite, on voyait au fond une ligne de maisons régulièrement alignées et qui devait former le revers d'une rue tirée au cordeau. Sur la gauche, le mur bordait le quai, laissant voir de l'étage où se trouvait Paul une échappée de paysages parisiens. La Seine et au-delà le quai des Augustins, terminé par la descente du Pont Neuf, par-dessus lequel la Monnaie se profilait au-devant de l'Institut. Une maison assez haute et d'aspect sévère, à laquelle s'appuyait le mur du jardin, coupait ici le tableau comme la ligne droite d'un cadre. Nous en avons dit assez pour donner à peu près la situation topographique de cette lucarne éclairant l'indigent garni de Paul Labre. Elle s'ouvrait sur les derrières de la rue de Jérusalem, à l'angle formé par le quai des Orfèvres. Le jardin qu'on voyait au-dessous était celui de la préfecture, dont les bâtiments s'étendaient sur la droite, rejoignant la Sainte-Chapelle. La ligne des maisons régulières était le revers de la rue Harlay du Palais. La chambre de Paul Labre elle-même était l'intérieur du tourgeon accolé à la fameuse tourelle qui faisait le coin de la rue de Jérusalem et du quai des Orfèvres, un des plus curieux du vieux Paris. Tout cela est mort. Vous ne sauriez plus voir la bizarre physionomie de ce lieu que dans la collection photographique tirée par ordre de M. Boitel et dont les meilleures épreuves sont conservées par le savant et très obligeant archiviste de la préfecture. En 1834, époque à laquelle commence notre histoire, la tour, le tourgeon et la maison contiguë portant le numéro 3 de la rue de Jérusalem étaient possédées par le traiteur Boivin, nom qui n'est pas sans quelque célébrité parmi les sans-gênes de la basse vie parisienne. Le père Boivin, sans être précisément un archéologue, se montrait très fier de l'antiquité de sa tour, ouvrage avancé des anciennes fortifications du palais. Il exhibait avec orgueil les traces d'un boulet bourguignon qui avait écorné sa muraille, il ne savait pas trop en quel siècle. Ce qu'il savait très bien, c'est que Boileau des Préaux était né dans la maison voisine de la sienne, la maison du chanoine. Boileau, Boivin, disait-il, ça rime. Il savait aussi que l'enfance de Voltaire s'était passée non loin de chez lui, dans le bâtiment où est maintenant le bureau de l'imprimerie. Que de poètes dans cette rue qui n'avait pas 15 toises de longueur. Il savait surtout que sa propre tour avait été habitée par le lieutenant criminel Tardieu et sa femme, ces deux avares, illustrés par une satire de ce même Boileau, qu'ils y avaient été assassinés et que la tête de l'infortuné magistrat avait pendu à la petite fenêtre du premier étage donnant sur le quai. On disait encore à cause de cela la tour Tardieu ou la tour du crime. Mais Boivin n'aimait pas beaucoup ces gens qui, comme le lieutenant criminel Tardieu, surveillent et gênent les bonderies. Hein, s'il avait bu son sac au lieu de l'empailler, disait-il souvent, jamais on ne lui aurait fait du chagrin, même au temps de la Saint-Barthélemy. Outre la maison du chanoine, oncle de Boileau, et l'hôtel des protecteurs de Voltaire, Boivin avait autour de lui plusieurs choses dont il tirait gloire. L'arcade de Jean Goujon, sa voisine, et surtout la Sainte Chapelle, donnait, selon lui, bon air à son établissement. Il expliquait volontiers comme quoi le nom de la rue de Jérusalem et le nom de la rue de Nazareth venaient des pèlerins qui avaient coutume de s'assembler autour de la chapelle de Saint-Louis en partant ou en revenant de la Terre Sainte. Il ajoutait « ça avait soif, ces fainéants, rapport à l'aridité du désert ». Ça demandait à rafraîchir. En foi de quoi, ma buvette date de la croisade. Quant aux bâtiments de la préfecture eux-mêmes, Boivin ne le respectait pas. Ce sont des parvenus qui sortirent de terre aux environs de l'an 1610. La maison Boivin était un cabaret assez vaste et fréquenté, comme vous pouvez le penser, par des gens complètement étrangers à l'étiquette des cours. Sa principale clientèle était composée de ces hommes hardis et chevaleresques qui, dédaignant le travail manuel et les professions libérales, vivent de la protection qu'ils accordent aux belles. Ils ne jouissent pas de l'estime générale. À ce fond, hélas considérable, se joignaient quelques gendarmes, des inspecteurs, des garçons de bureau, des pompiers et des rats de Paris brûlés dans les autres gargotes de la cité. La tour, ou plutôt les tours, représentait la partie galante de l'établissement. J'ai le frisson en touchant à cela. Vénus pudique, dans les petits oratoires octogones qui formaient les divers étages de la tour principale, se serait voilée jusqu'aux genoux. Néanmoins, il y venait des cuisinières de marchands d'ustensiles de pêche pour fréquenter des gendarmes en tout bien tout honneur. Dans ces boîtes, on tenait aisément deux preux et deux demoiselles. Le père Boivin, ce faiseur de mots, disait « En bourrant, on en met huit, et ça tient !» Au troisième étage, les cabinets s'arrêtaient. Les combles étaient loués en garni. Le garni se composait en tout de trois chambres, celle de Paul Labre, celle de Thérèse Soulas, qui couronnait la maison numéro 3, et celle de Gautron à la craie jaune, qui occupait le faîte de la tour Tardieu. Il n'est pas inutile de noter qu'en 1834, la maison contiguë à la gargote Boivin et marquée du numéro 5 venait d'être louée par l'administration, qui reconstituait le service de la sûreté après la destitution du fameux Vidocq. Le regard de Paul Labre, triste et chargé de rêverie, se tourna vers l'échappée qui montrait un coin du grand paysage de la Seine. Ainsi éclairé par les rayons du couchant, son visage sortait, mâle et net comme un médaillon de David, hors de l'ombre qui était derrière lui. C'était un jeune homme aux traits nobles et fiers. Dans l'expression de ses grands yeux, vous eussiez deviné, je ne sais, quelque hardiesse vaincue et l'éclair éteint d'une gaieté qui n'était plus. Il avait dû souffrir cruellement et longtemps après avoir joui avec passion de quelques jours heureux. Il était très pâle. Son front, couronné de cheveux bruns, court, bouclé, avait de la distinction et aussi de l'ampleur. Les lignes de sa bouche faisaient naître l'idée d'une fermeté douce, mais brisée par le malheur. En somme, quiconque l'eût remarqué, vêtu qu'il était d'une blouse de laine grise, à la fenêtre de ce misérable taudis, aurait pensé qu'il n'avait là ni son vrai costume ni sa vraie place. Le mur du jardin donnant sur le quai confinait à une série de maisons en retour, formant angle droit avec la cour du Harlay. Presque toutes ces maisons existent encore, excepté la première, la plus grande, celle qui, par conséquent, masquait les autres en ce temps-là. Elle n'avait que deux étages, tous deux très hauts, surmontés de mansardes semi-circulaires, perçant un toit à pic. Elle devait avoir été habitée noblement. À chaque étage, une fenêtre à balcon ouvrait sur le jardin. Ce jour-là, celle du premier étage s'abritait derrière ses persiennes fermées, celle du second restait entr'ouverte. Un foulard de couleur rouge flottait au vent, noué à l'un des barreaux du balcon. Ce fut vers la fenêtre fermée du premier étage que le regard de Paul Labre s'abaissa. Un sourire mélancolique vint à ses lèvres. Isole, murmura-t-il, qu'y a-t-il donc dans un nom? Je l'ai entrevue de loin, d'en bas je l'ai adorée, elle va être le dernier battement de mon cœur. » Sa main s'approcha de ses lèvres, comme s'il eût voulu envoyer un baiser. Mais sa main retomba. Ses yeux venaient de rencontrer le foulard rouge qui flottait comme un drapeau au balcon de l'étage supérieur. Un éclair de curiosité s'alluma dans son regard. « Voilà trois fois, murmura-t-il, trois fois que je remarque pareille chose. Est-ce un signal ?» Il n'acheva point. Son œil s'éteignit et ses quatre mots vinrent mourir sur ses lèvres. « Désormais, que m'importe ?